droit, c'est à mon sens, de manière assez simple, quand même, l'état d'un rapport de force à un moment donné de l'histoire entre des forces antagonistes. Et donc, il faut clairement dire, le droit, c'est ça, et ce n'est pas une création abstraite pour l'intérêt général. C'est toujours un rapport de force qui s'inscrit ensuite, évidemment, dans une histoire avec des spécificités de droit entre droit anglo-saxon, droit romain, etc. Et petite parenthèse, on voit la bataille qui est en train de se mener, qui ne fait pas du tout aujourd'hui de vagues et d'articles dans la presse. Il y a une bataille entre le droit anglo-saxon et le droit romain au tribunal pénal international à La Haye. Et aujourd'hui, il y a très peu de juristes européens qui sont au tribunal pénal international, et c'est le droit anglo-saxon qui est en train de faire une pression invraisemblable et qui est en train de transformer le droit international pénal. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet, ça vaut la peine de s'en préoccuper parce que c'est un vrai souci. Et comme je l'ai souvent dit une fois dans un débat il y a un ou deux ans à Bruxelles, la langue qu'on parle dans les instances européennes définit le droit qu'on construit. Et pour moi, il y a très clairement un lien entre la langue et le droit. Et le fait que le français ait été abandonné année après année des instances européennes par la Commission, y compris au Parlement européen, effectivement modifie radicalement la vision du droit commun. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas uniquement pour faire les cocoricos français, mais c'est que la langue est porteuse d'un droit spécifique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait effectivement prendre en compte. Je ferme cette parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir. Mais enfin, c'est à voir quand même, mais simplement, ce n'est pas que les vilains américains, ou canadiens, ou autres. C'est-à-dire que nous, on n'est pas les gentils, eux sont les vilains. Et dans les négociations internationales, on peut être aussi terrible et aussi mauvais que les impérialistes américains quand on fait les impérialistes européens. Et on l'a fait dans beaucoup d'accords de libre-échange, parce que les États-Unis en font, mais l'Union européenne, on a des dizaines et des dizaines à son actif à travers le monde entier, et pas forcément avec des pays qui sont en équilibre politique, financier, ou bref, industriel, que nous. Et donc, effectivement, on a aussi, on utilise aussi en Europe les accords de libre-échange pour brider des pays qu'on considère comme des nouveaux colonisés, parce que pour moi, derrière les accords de libre-échange qui se font entre économies qui n'ont pas le même poids, on est dans une affaire de subordination et pas d'aide, soi-disant, au développement. Ça, c'est ce qu'on vend à la Commission européenne ou ce qu'on vend dans les beaux discours, mais on a beaucoup d'exemples qui montrent cette réalité. Donc moi, j'ai envie de repartir de un peu du début, pas forcément du début de la propriété intellectuelle, parce que derrière le mot de propriété intellectuelle, on a des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. D'ailleurs, tout remettre dans le même pot entre le droit de l'artiste qui fait une œuvre, que ce soit un peintre, un musicien, un écrivain, peu importe, un artiste, et ça, c'est un cas de propriété intellectuelle, on connaît. Propriété intellectuelle des brevets pharmaceutiques. On n'est pas dans la poésie, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur les semences, c'est encore un autre domaine. Et ça a des incidences sur la façon de vivre. Et je dirais qu'on pourrait parler d'autres formes de propriété intellectuelle qui sont des propriétés intellectuelles qui ne sont là uniquement comme marque, dont l'objectif est d'être utilisé pour ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire que la propriété intellectuelle peut être un outil pour se détourner de la fiscalité. On a des exemples dans l'histoire. Il y en a un en Europe qui est connu, tristement connu, c'est le cas d'IBM, qui en 1930 avait investi en Allemagne et en Pologne, qui était très bon sur les cartes perforées, et qui, à travers les licences donc, de ses filiales, ont pu travailler pendant toute la guerre pour rendre beaucoup plus efficace la circulation des trains, notamment, et le fichage. Je vous donne une pas de dessin. Cet argent de filière transféré ensuite en Suisse, rapatrié ensuite aux États-Unis au nom de la propriété intellectuelle. Il a fallu attendre il y a quelques années simplement pour que IBM accepte de cracher au bassinet, et ce sont des associations juives et des victimes de l'Holocauste qui en ont été bénéficiaires, mais évidemment à des montants très symboliques par rapport au préjudice évidemment auquel ils avaient participé. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Il y a un autre phénomène qui se passe en ce moment même, depuis des années, c'est sur l'organisation. Vous allez dire que je fais une fixation, mais ce n'est pas une fixation, c'est juste parce que c'est un modèle. Il y a une petite entreprise qui fait de la bouffe de merde qui s'appelle McDo. Je reprends les chiffres, hein, parce qu'avec McDo, il faut toujours faire attention. Bon, ils m'ont déjà mis au tribunal, donc ça, je sais. Enfin, bref. Donc, chez McDo, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a une filiale de McDo qui s'appelle McDonald's Europe Franchising SARL. Donc, ils appellent ça le MEF. Donc, le MEF est une filiale de Monsanto, et les franchisés de McDo, puisque vous êtes de Monsanto, je pense que vous avez un peu. Non, allez. Je c'est une franchise. Et donc les franchisés et les autres filiales en Europe de McDonald's payent plus d'un milliard de dollars par an au MEF. Le MEF ne produit rien du tout. Rien du tout. Donc c'est une façon très claire de prendre les bénéfices qui sont faits dans un pays européen ou dans plein d'endroits en Europe, dans toutes les régions, à Strasbourg aussi, et de les renvoyer sur un compte.
Juste à côté.
Hein? Et donc ça, et qu'est-ce, à quoi ils ont droit avec ça? Uniquement à le droit d'utiliser le nom. Point barre, c'est le seul service. Et ça fait quand même un milliard qui est sorti, et donc ça passe par là, et la taxation sur cela, eh bien, est ridicule, puisqu'elle est de 0,7%. Donc l'argent qui est détourné par McDo ne rentre pas du tout, donc 0,7%, alors qu'on sait que McDo se sert du Luxembourg, où c'est 28%, même si c'est inférieur à ce qu'on voudrait. Mais la réalité, elle est là. Donc là, on a un exemple très précis d'une entreprise qui se sert du droit de propriété pour ne pas payer d'impôts. Et ça, on a pas mal d'entreprises qui jouent à ça. Et il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la propriété intellectuelle pour valoriser du vent. À tel point que, quand on demande à des économistes, et nous on l'a demandé au Parlement européen, les études. On a dit à combien sont valorisés dans les bilans des entreprises les brevets. Il n'y a pas une ligne, il n'y a rien. C'est très embêtant pour eux. Parce qu'en réalité, à travers la propriété intellectuelle, on fait de l'optimisation fiscale. Donc vous ne retrouvez dans aucune comptabilité ce qui est mis sous le couvert de la propriété intellectuelle. Et c'est complètement quelque chose qui passe à l'as. Ce qui est quand même très intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve... Et ça, ce n'est pas simplement McDo, mais on peut le retrouver avec d'autres. Alors, il y en a d'autres amis dont je vous ai pas, dont j'ai évidemment cafouillé le nom tout à l'heure. Hein? Monsanto. Donc, Monsanto, ils sont vachement bien aussi. Et donc, eux, ils ont inventé un mot, je ne le connaissais pas ce mot, on l'a découvert, le goodwill. Vous connaissez ça, le goodwill? Un truc extra, vous connaissez? Hein? C'est génial, le goodwill. Non, mais le goodwill de Monsanto, c'est la surévaluation. Pure et simple. Aujourd'hui, cette affaire est aujourd'hui permet. Alors, c'est un article qui est sorti d'un petit journal américain. Hein, donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui explique que le goodwill, en gros, continuera de manière indéfinie tant que l'entreprise existe
Et ça permet là aussi de faire passer à travers le goodwill des sommes considérables, puisqu'aujourd'hui, Monsanto, en 3 ou 4 ans, est passé de 3,4 milliards de dollars d'évaluation de goodwill à plus de 4 milliards. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui est produit avec ça ? Rien. Rien. On est complètement dans le fantasme et donc dans la construction d'une forme d'économie parallèle. Et ça, je crois que c'est quand même très important à relever parce que ça modifie complètement notre façon de voir la vision des entreprises. C'est-à-dire que dans les accords internationaux, on parle toujours d'accords entre l'Union européenne, les États-Unis ou le Canada ou n'importe quel autre pays, on a l'impression d'être dans une discussion de gens de bonne compagnie. Mais la réalité, c'est qu'on a en fait ces pays souvent négocient pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, en croyant naïvement que grâce à ces négociations, l'argent va permettre de remplir les caisses de l'État, soit par les impôts, soit quand il y avait des barrières douanières avant que l'OMC se mette en place, ça permettait de faire rentrer aussi de l'argent. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus et il y a une complète autonomisation des entreprises par rapport aux États ou à la régulation de l'Union européenne. On est complètement dans un autre monde. Et c'est vrai qu'un des outils aujourd'hui utilisés par les entreprises, ce sont très clairement les titres de propriété intellectuelle. Autre sujet, les médicaments. On aurait pu parler des médicaments. Je me rappelle en 1999 à Seattle, où j'étais présent et aussi on a fait pas mal d'agitation, que les pays du G77, donc les plus pauvres, ont bloqué les accords de Seattle, puisque c'est eux en fait qui sont les grands acteurs du blocage de Seattle, à la fois pour les questions agricoles, j'y reviendrai, mais aussi sur la question des médicaments. Et à ce moment-là, bien les pays du Sud ont dit on est victime des médicaments. Aujourd'hui, dans les pays les moins avancés ou en développement, sur un budget santé, le prix des médicaments peut monter jusqu'à 66-70% du budget. C'est pas les hôpitaux, ce sont pas les infirmières, les médecins qui coûtent de l'argent. Ce sont les médicaments. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a qui protège les médicaments ? Ce sont les brevets, c'est la propriété intellectuelle. La grande bataille qui a eu lieu en 2001 à Doha, qui était la réunion suivante pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvable, en réalité ce n'était pas sauvable, mais on a essayé de nous vendre que ce dernier accord, il fallait le signer parce qu'on était 2 mois après l'écroulement des Twin Towers, et ça a beaucoup joué pour que les pays acceptent de signer, ça s'est fait sur cette question des médicaments génériques. En disant, le Brésil, l'Afrique du Sud, notamment, et l'Inde, vont pouvoir produire des médicaments génériques. Il faut voir depuis 2001 les bâtons dans les roues qui ont été mis à tous les producteurs de génériques de ces pays-là pour pouvoir réussir à faire des médicaments génériques. Et quand ce n'était pas la forme de la pilule, c'était la couleur de la boîte, etc., etc., qui a été remise en cause. Et avec les accords bilatéraux, quand ça a été possible, eh bien, d'autres pays ont été attaqués pour prolonger les durées des brevets, quand vous parlez des accords effectivement ADPIC plus, sur les médicaments, c'est clair. C'est-à-dire que déjà, avec les ADPIC, on prolongeait la durée du brevet à 20 ans. L'idée avec ces accords bilatéraux, c'est d'augmenter cette durée encore plus pour empêcher les génériques de se mettre en place. Et donc là, on n'est pas du tout dans des accords win-win, comme on dit à la Commission européenne. On est dans des accords de crapules, de gangsters, face à des gens qui sont exploités, à qui on essaye de faire rendre gorge. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est d'un cynisme absolument insupportable. Dernier sujet peut-être que je peux aborder pour ne pas être trop long, c'est sur la question des semences. Sur la question des semences, c'est une bataille que vous connaissez. Et là aussi... Évidemment, derrière brevet sur les semences, de suite, on pense à OGM. Moi, je fais le pari. Alors, ça va être difficile à prouver. J'espère qu'un jour, on aura des textes qui vont nous le permettre. Peut-être qu'on aura des fuites, des entreprises. Je ne sais pas à quelle occasion ça pourrait arriver. Mais si les entreprises comme Monsanto, Novartis au départ, qui étaient aussi dans les OGM et deux, trois autres, ont développé ces produits, ce n'est pas tant qu'ils croyaient dans ces nouveaux produits, mais c'était une façon de prolonger la vie de brevets qui tombaient dans le domaine public. Et la question du glyphosate, ça a été ça. C'est-à-dire que quelques années avant que le glyphosate tombe dans le domaine public, donc le Roundup Ready pour Monsanto, eh bien, on a développé des semences résistantes à un herbicide, mais à un herbicide bien précis qui était le Roundup Ready, qui permettait, comme ça, à l'entreprise, de continuer à vendre ses bidons et la semence qui allait avec le bidon. Ça n'était que ça. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les courbes de vente de Monsanto, et notamment en Amérique du Sud, l'envolée des ventes des bidons de Roundup, alors que le brevet est tombé, n'a cessé de monter. Mais parce que la semence n'était sensible qu'au Roundup. Et donc, elle n'était protégée que par le Roundup. Si l'agriculteur avait mis un autre herbicide, ben, sa semence aurait crevé. Avec le Roundup Ready, ce n'était pas possible. Et donc, effectivement, ils ont marché comme ça. Et donc là, ça a été très clairement un nouveau hold-up, c'est-à-dire qu'on prolonge, on détourne le droit à travers un outil scientifique et un outil de recherche, on en fait un outil économique de domination uniquement pour prolonger la vie de son brevet qui est tombé dans le domaine public. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que là, on voit une manipulation très singulière qui a été faite. Mais je dirais que, alors, l'Europe n'a pas la même, la même forme de droit sur les semences, puisque nous, on a ce qu'on appelle des brevets qui permettent non pas d'avoir un brevet, mais qui permettent de protéger l'obtenteur des améliorations qui ont fait le travail. Et donc, on a eu ça en Europe, c'est un droit européen spécifique par rapport au droit des brevets. Et là, c'est intéressant aussi, c'est que c'est une bataille internationale entre les deux formes de préservation sur le droit des obtenteurs ou des firmes. Eh bien, on voit que dans beaucoup de pays, ça se chevauche maintenant, que certaines fois, c'est le brevet qui est utilisé, d'autres fois, c'est le brevet européen. Eh bien, l'Europe, dans ses négociations avec les pays du Sud, je pense dernièrement, par rapport à quelques années, avec l'Amérique centrale, a imposé, alors qu'on n'était pas du tout dans le système américain, aux législations des pays, je pense à la Colombie par exemple, de changer ses lois sur les semences et d'obliger les agriculteurs à acheter des semences certifiées, protégées par les brevets ou par le modèle européen. Et il y a eu des émeutes en Colombie avec des morts dans des villages qui a fait que le gouvernement colombien a été obligé de reculer. Mais si on reste qu'en France, il y a eu une tentative, et c'est des vieilles tentatives, ça se fait année après année. À la fin des années 80, puis ça s'est poursuivi au début des années 90 et pendant les années 90, des semenciers européens, français notamment, pour essayer d'interdire aux agriculteurs de continuer à utiliser leurs semences. Et c'est créé une forme de résistance civile de paysans contre cela, et ça a pris une forme très singulière, c'est qu'en fait, on avait dit aux agriculteurs, vous n'avez le droit de le faire, de garder vos semences, que si vous avez les outils pour trier vos graines directement à la ferme. Et donc, les agriculteurs qui travaillaient en CUMA, je pense que certains savent ce que c'est une CUMA, c'est une coopérative de matériel, il y en a au moins une par village à travers toute la France, eh bien, il y a des agriculteurs qui avaient cet outil, puisqu'on ne s'en sert pas tous les jours, en CUMA. Eh bien, les CUMA étaient interdits de travailler pour trier, pour enlever les mauvaises herbes qu'il y avait dans les mauvaises graines, pour que l'agriculteur puisse ressemer. Et donc, ça a été une bataille. Et on a été obligé de faire un rapport de force. Il y a une coordination nationale qui a été créée pour la défense des semences de ferme et le triage à façon. Et au final, on a fait reculer le gouvernement. Et c'est assez intéressant de voir chaque fois comment se cache la notion d'appropriation contre l'intérêt général. Je termine par une note positive plus joyeuse, qui est en fait une avancée européenne. Parce qu'on en a quand même. Ce sont les appellations d'origine contrôlée. Les AOC, on en a parlé tout à l'heure. Les AOC, c'est une invention franco-française. Vous savez que nous qui savons faire ça. Donc il y a deux appellations qui sont historiques, qui sont le champagne et Roquefort, les deux qui datent de 1925. Au point de départ, c'est le hold-up du siècle. Il faut clairement dire que les appellations sont des hold-up. Au départ, ceux qui détiennent un territoire disent bah, « ce type de vin, on peut le faire que là, et la parcelle d'à côté, c'est dommage pour toi, mais nous on est là, on est propriétaire là, et ce sera que nous. » Ça c'est pour le vin. Et à Roquefort, plus malin encore, en fait du lait on en a besoin, donc on ne va pas dire quelle est la surface où on va ramasser le lait. Par contre, des caves, il n'y en a que dans la commune de Roquefort. Et donc, si le fromage n'est pas viné dans cette commune, dans les trous au fond de la commune, ça ne peut pas être du Roquefort. Et ça a été comme ça. Et en 1925, les deux ont été votés par un mot au Parlement. Ce sont les deux premières appellations. C'est un véritable hold-up. Il y a des centaines de caves autour de chez nous qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus faire de Roquefort, qui se sont appelées des caves bâtardes. C'était vachement bien, c'était agréable. Donc ceux qui travaillaient là depuis des siècles. Et à Champagne, eh ben on sait bien la bataille que ça a été pour essayer d'augmenter. Mais là aussi, il y avait quelques grands domaines qui savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Et derrière, on retrouve les banquiers, d'ailleurs, de manière intéressante, et à Montpellier. Les banquiers étaient, c'est eux qui ont été les architectes de cette opération. On avait beaucoup de protestants, donc je ne veux rien dire parce qu'on est à Strasbourg. Mais c'est vrai qu'ils ont fourni. Bon, naissance du capitalisme, on connaît la vie d'histoire. C'est vrai qu'ils ont été quand même des beaux joueurs là-dessus, quand ils savaient faire. Mais voilà. Ça, c'est donc le point de naissance. Quand l'Union européenne s'est renforcée et que beaucoup d'autres appellations sont nées en France, que d'autres pays comme l'Italie notamment, ou l'Espagne ou d'autres, ont commencé à être intéressés, on s'est dit, c'est pas possible d'avoir une législation pays par pays. Il faut qu'on ait une législation européenne. Et donc le législateur européen s'est emparé de ce dossier et il a inversé la réalité de l'histoire. C'est-à-dire que d'un droit de propriété qui était lié ou à une parcelle ou à des caves, eh bien il en a fait une propriété collective qui intègre à la fois les producteurs, des transformateurs comme il y en a, si ce n'est pas du paysan, un artisan ou un industriel plus important, et les consommateurs. Et les AOP, puisque c'est comme ça, ça s'appelle maintenant, bien, elles reposent sur trois pieds, le producteur, le transformateur et le consommateur, et sur un territoire. Et ça change radicalement cette vision, et donc d'une propriété très privée, on est passé à une propriété collective, de défense d'une pratique, d'un territoire, des races, de cahier des charges. Et c'est très intéressant, parce que ce n'était pas le cas au départ. Et ça, c'est quelque chose de très novateur. Et donc, quand on se dit qu'il faut défendre les appellations dans les accords de libre-échange, même si je pense qu'il ne faut pas d'accord de libre-échange, et que je suis pour vraiment le multilatéralisme, mais dans cette discussion-là, c'est ça qu'il faut défendre. C'est ce principe collectif. Or, aujourd'hui, quand on voit la commission quand elle va négocier, elle est contente quand elle revient en disant « Ça y est, il y a 140 appellations qui sont protégées au Canada. » La belle affaire, il y en a 1400 en Europe. Donc, on en protège 10%. On ne défend pas une vraie bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé même à l'intérieur de la propriété intellectuelle sur les appellations une distorsion entre les appellations elles-mêmes. Donc, est-ce que celles qui sont protégées en droit international sont plus importantes que celles qui ne le sont pas? Est-ce qu'il y a une valeur juridique différente? Mais moi, je serais appellation, qui ne suis pas sur la liste, j'aurais envie de dire que cet accord ne tient pas. Ou, parce qu'à partir du moment où on a les mêmes droits au niveau européen comme une appellation, pourquoi est-ce qu'on va en défendre certaines plus dans un cadre international que d'autres? À mon avis, juridiquement, ça ne tient pas là. Bon, ça sera peut-être intéressant qu'on en rediscute, parce que ça serait bien de faire un recours là-dessus. J'aimerais qu'on ait des appellations qui gagnent là-dessus. Mais je suis sûr qu'on gagnerait cette bataille juridique. Donc, vous voyez, à travers ces quelques exemples un peu variés, j'ai essayé de me déporter du droit pour voir comment cet outil de droit peut être utilisé à des fins très différentes, mais malgré tout dans des intérêts très particuliers, financiers, et pas du tout dans un intérêt général. Et je finis juste parce que, pour revenir aux propos liminaires, c'est que c'est vrai qu'actuellement, au sein de l'Union européenne, on est dans une situation particulière. On disait, par rapport à la propriété intellectuelle, et là je pense plus exactement aux journalistes et aux auteurs, qui aujourd'hui, parce que ce n'était pas du tout le cas au moment où les droits intellectuels ont été votés, enfin ont été mis dans les APIC, c'est qu'en gros le développement d'Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et les grands acteurs d'Internet, les GAFA, n'avaient pas cette puissance qu'elles ont aujourd'hui de détourner et de piquer, parce que là on est encore dans du vol, pour faire par exemple des news brèves dans les sites, sans payer de droits d'auteur, ni évidemment aux journalistes qui ont travaillé, ni aux journaux qui publient ces journalistes, donc ce qu'on appelle les droits voisins par rapport aux droits d'auteur. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et donc là, il y a une bataille qui est en train de se mener au Parlement européen, mais j'espère qu'on va la gagner. Si on ne suis pas du tout sûr aujourd'hui, parce que les grandes firmes mettent le paquet aujourd'hui pour défendre leurs droits en disant « on a accès à tout ». Et on ne voit pas pourquoi on payerait les droits d'auteur, déjà ça nous énerve, mais alors les journaux qui les publient, ça nous énerve encore plus. Ce qui est quand même là aussi tout à fait incroyable. C'est-à-dire que tout ce qui a fait qu'on a un journalisme pluraliste, même s'il appartient à des propriétaires, etc., etc., mais ce n'est pas le débat là aujourd'hui, et sur la création d'enquêtes, de travail au quotidien des journalistes, bien aujourd'hui, ce travail est menacé par les grands groupes. Or, les grands groupes font ça, soi-disant, au nom de la liberté et de la gratuité. Mon œil, quand on voit la pub sur les pages chaque fois, à travers leurs cookies et toutes ces conneries, effectivement, on est gavé. Hein. Et donc, ils disent aux journaux, bah, écoutez, c'est pas grave, on va vous les fournir aussi. Grâce à ça, c'est insupportable. Donc là aussi, on a une inversion de la réalité, et je crois que sur ça, vraiment, il faut être très vigilant, là aussi, en tant que citoyen. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, juste pour finir, cette fois-ci, je termine. Allez acheter vos journaux dans les kiosques ou abonnez-y et recevez-les, mais ne les lisez pas tous les jours sur Internet.